Salut tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Crois que la situation du frère Albert, je crois que le frère Tombeau vous l'a donné. Prions tous les uns pour les autres. Nous allons prier. Le temps est déjà passé. Père Céleste, te remercions ce soir de nous avoir réunis en cet endroit et levons nos yeux vers toi, toi qui tiens toutes choses entre les mains, ainsi que le contrôle de toutes choses de nos vies, le jeu de nos organes, notre physiologie, tout cela est sous ta conduite. Il arrive que l'organe échappe à ta loi, le chaos qui commence dans un corps humain. Mais lorsque tout est maintenu selon ce que toi tu as dit, la santé suit. Aussi nous t'en sommes reconnaissants. Comble-nous de ta présence ce soir. Nous en avons besoin. Car ta présence, elle donne du courage. Ta présence, elle fortifie à ceux qui sont affaiblis. Ta présence, oh, elle donne la joie à ceux qui sont attristés. Ta présence redonne des espoirs nouveaux, de l'espérance. Et tout cela. Nous nous en remettons à toi et te demandons de bien vouloir nous pardonner nos péchés. Tu nous assistes en toutes choses. Et nous te prions pour notre bien-aimé frère. Que tu sois avec lui là-bas à l'hôpital. Si cela n'était pas arrivé, peut-être aujourd'hui, c'est lui qui aurait pu se présenter ici devant tes enfants. Nous te demandons de lui rendre visite, de le reconstituer, Père. Il y a quelques lésions que ce soit, que tu puisses rétablir cela. Selon ta volonté. Ne méritons pas tout ce que nous te demandons, mais nous ne venons pas sur base de nos mérites. Nous sommes des pécheurs et nous avons besoin que tu uses de bonté envers nous. Et de miséricorde. Tu nous pardonnes. Nous venons au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Lui, il a tous les mérites. Ce qui te demande, il l'exauce toujours. Puisse-t-il lui-même te demander cela pour nous? C'est vers lui, selon qu'il nous ait dit, fixer les regards sur lui, c'est vers lui que nous fixons nos regards, pour qu'il puisse ainsi toucher des entrailles de miséricorde. Nous te demandons d'inspirer ta parole ce soir, de nous aider dans l'audition, dans la prédication. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Bien. Nous allons lire ce soir dans Matthieu chapitre 4. Matthieu 4. Verset 3 à 7. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. On peut s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. On s'arrête là parce que nous allons intituler « Si tu es le Fils de Dieu ». C'est un défi que le diable lance. Il veut que le Fils de Dieu lui prouve qu'il est le Fils de Dieu. Il voulait que Dieu prouve que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Seulement, c'est que le diable oublie, et c'est valable encore jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a rien à prouver. Ses œuvres rendent témoignage de sa grandeur. Ses œuvres rendent témoignage de sa toute-puissance. Ses œuvres rendent témoignage de sa perfection. Et il n'a rien à prouver. Et ce qui est écrit est parfait. Et comme c'est écrit, ça reste ainsi. On n'a pas à spéculer. Si vraiment tu es le Fils de Dieu, alors fais ceci. Non. Sa création le reconnaît. La création reconnaît Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Lorsqu'il est arrivé en pleine tempête avec les disciples, avec ses disciples, et que la mer, n'est-ce pas, soulevait la barque dans tous les sens, hein, dans Matthieu 8, nous lisons, au verset 23, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Il n'a pas eu besoin de dire à la mer, « Regardez, je suis le Fils de Dieu. » Il n'a pas eu besoin de dire au vent, « Regarde, je suis le Fils de Dieu. » Il a parlé, la mer l'a reconnu. Il a parlé, le vent, les vents l'ont reconnu. Il a parlé, la tempête s'est calmée. Et la création, rien qu'elle-même, nous prouve qu'il est fils de Dieu. Ça va? Cette parole qui est là, telle qu'elle est écrite, elle nous dit, au commencement était la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et elle nous montre le cheminement, la manière dont la création s'est produite, a été produite, eh bien, jusqu'aujourd'hui, tel que Dieu a fait les choses continuent ainsi. Le soleil se lève, le soleil se couche. Le soleil se relève le lendemain, il se recouche. Et ainsi de suite. Un cycle sans fin. Aucun dérèglement. Amen. La lune est toujours à l'endroit où elle devait être. Le soleil est toujours à l'endroit où le soleil l'a placé. Lorsqu'il parle, lorsque Dieu parle à Job dans Ésaïe 38, il dit qu'il a fixé les dimensions. Il lui dit qu'il a fixé l'Orion. Il lui dit qu'il a fixé les Pléiades. Tout ça, c'est sa main qui a fait cela. Et aujourd'hui, rien n'a changé. Celui qui n'est plus à sa place, c'est l'homme, c'est vrai. Mais ce que Dieu a fait demeure. Amen. Et il est bien dit. Il pose des questions. Il dit dans Job 38, au verset 4, il demande à Job, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? L'homme est venu, il a mesuré. Il a mesuré, il dit en fait, la terre, le diamètre est d'autant. Amen. Ah. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? La terre est appuyée sur quelle base? Qu'est-ce qui soutient la terre? La parole de Dieu. C'est Dieu qui l'a fixée sur son orbite. Hein? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, et ainsi de suite. Vous savez, je viens d'un endroit où j'ai encore pu regarder la mer, j'ai encore pu contempler la mer, mais quand vous regardez, votre cœur ne peut que dire ceci, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Toute cette étendue de mer que nous voyons là, c'est quelque chose d'incroyable. Vous savez, Dieu, le Créateur, ça montre la grandeur du Créateur. Et on n'a pas à demander à Dieu de nous prouver. Cette mer, quand je suis arrivé, elle était à marée haute. Il y avait plein de choses qui étaient immergées. Le lendemain matin, je suis parti, c'était à marée basse. Et ce qui était immergé, j'ai vu ça complètement à nu, totalement. Mais je dis, mais Dieu est grand. Qui contrôle le mouvement de cette mer? Maintenant, quand on pense que dans la mer, il y a des endroits où il y a 10 kilomètres de profondeur. 10. Imaginez ça. 10 kilomètres de profondeur. Alors, Dieu qui a créé les montagnes et les vallées. Si Dieu décidait ce matin, aujourd'hui, ce soir, de soulever le fond de la mer de 9 kilomètres, mais la terre tout entière est inondée. Notre vie est entre ses mains. Nous n'avons le contrôle d'aucune chose. Mais c'est Dieu qui en a le contrôle et nous lui sommes reconnaissants d'être à nouveau ici présent ce soir. Nous sommes en plein tourbillon ce matin. Ce soir, dans Marc 4, Marc 4, Jésus n'a pas eu besoin de dire à la mère, je suis le Fils de Dieu. Il n'a pas eu ce besoin-là. Et verset 30, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon. Nous sommes dans un tourbillon ce soir. Cette année-ci a commencé, mais sur le chapeau de roue, en tant que tourbillon. Nous sommes secoués de toutes parts. Le seul qui est capable d'arrêter ce tourbillon, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, à l'arrière, à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il parle directement à la mer. Il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Alors, quand vous avez ce verset-là en esprit et que vous consultez la mer, vous vous imaginez qu'un petit homme qui s'est élevé comme une faible plante peut se mettre devant cette gigantesque océan qui est là. Devant cet océan gigantesque, et parler à cet océan, et cet océan lui obéir. Mais ça dépasse tout entendement. Ça dépasse tout entendement. Et que le diable ne vienne surtout pas me dire, est-ce que tu crois que c'est Dieu qui a créé ça? Mais bien sûr, ça, le hasard ne peut pas faire une chose pareille. Une explosion ne peut pas produire une chose pareille. Une chose qui obéit à des lois parfaites. Oh, mon Dieu. Hein, le même démon qui est venu dans le désert, qui a tenté le Seigneur, lui disant, si tu es le Fils de Dieu, eh bien, le même démon était là lors de la crucifixion du Seigneur. C'est le même. Ce n'était pas un autre, c'est le même. Il était présent lors de sa crucifixion. Matthieu 27. Verset 39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu. » Vous voyez, c'est la même phrase. C'est le même démon. « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui. Ils disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qui descendent de la croix et nous croirons en lui, pour qu'ils puissent croire, ils avaient besoin que Dieu leur prouve par quelque chose qui était dans leur imagination. Ils voulaient que Dieu leur prouve dans le tourbillon que nous passons. Nous n'avons pas besoin de demander à Dieu de nous prouver quoi que ce soit. Nous savons que Dieu est plus que capable. Oh, qui ça? Sarah et Abraham étaient avancés en âge. Ils étaient usés de corps, tous les deux. Ils n'avaient pas besoin que Dieu leur prouve qu'il était capable de leur donner l'enfant, un enfant. La Bible nous dit dans Romains 4, Abraham avait la pleine conviction. Il avait la pleine conviction que ce que Dieu promettait, il pouvait aussi l'accomplir. Dieu n'a pas besoin de prouver. Il n'a pas besoin de nous prouver qu'il peut relever notre frère là-bas de l'hôpital. Non, nous savons qu'il en a la capacité. Nous en avons la pleine conviction. Romains 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction. Il n'y a pas un espace de doute. C'est une conviction pleine. La pleine conviction que ce qui promet, il peut aussi l'accomplir. Vous et moi, ce soir, nous croyons, nous avons cette pleine conviction que Dieu est plus que capable de faire les choses que nous souhaitons qu'il fasse. Même s'il ne le fait pas, nous savons que Dieu peut le faire. C'est une certitude. Vous savez, l'homme est petit devant Dieu. Il peut imaginer de grandes choses. Et quand vous voyez, quand vous visitez les défenses que l'homme a fabriquées, a mises, les Allemands ont mises, les défenses qu'ils ont placées pour qu'ils ne soient pas touchés par l'ennemi, mais ils pouvaient penser qu'ils étaient intouchables là où ils étaient. Mais Dieu a fait de sorte qu'ils soient touchables. On les a délogés de là. Mais c'est une forteresse, frère.
Amen.
Sans la main de Dieu, cette guerre n'aurait plus d'issue. Et nous regardons partout dans le monde aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui. Sans la main de Dieu, il n'y a pas d'issue. Mais Dieu est celui qui est capable d'arrêter ça. Et ne commencez pas, ne laissez pas le démon venir vous dire, si Dieu est vraiment Dieu, pourquoi laisse-t-il? Dieu sait ce qu'il fait.
Amen.
N'écoutez pas ce démon-là.
Non.
Ce démon-là qui vient, qui dit, si tu es fils de Dieu, je suis fils de Dieu.
Alléluia.
Amen. Je n'ai pas besoin de lui prouver que je suis fils de Dieu. C'est pourquoi je lui demande ce que je lui demande. Parce que je sais, moi je suis un fils de Dieu. Mais lui, il était le fils de Dieu. Ce qui est tout à fait différent. Amen. Je sais une chose, Dieu quand il parle, sa parole ne peut pas revenir à lui sans avoir accompli ce don pourquoi elle a été prononcée. Et Dieu veille sur cette parole.
Amen.
Il veille pour que sa parole s'accomplisse.
Amen.
Il veille pour que sa parole soit exécutée.
Amen.
Il dit, moi je veille sur ma parole.
Amen.
Vous pouvez douter, vous pouvez ne pas douter. Faites ce que vous voulez,
Amen.
Mais ce que je dis, je veille là-dessus. Amen. Dieu ne parle pas en l'air.
Amen.
Il pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il pense.
Amen.
Dans Jérémie, chapitre 1er. Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter.
Amen.
Scofield nous donne l'explication. Arbre de l'amandier fleurit avant les autres arbres. L'amandier, c'est littéralement, c'est celui qui se réveille. Symbolise l'accomplissement imminent du jugement divin, du jugement qui allait venir. Dieu dit, je veille, c'est lui-même.
Amen.
Ce n'est pas Gabriel, ce n'est pas un ange qui veille sur sa parole. C'est pourquoi Paul peut dire à Timothée, cette parole est digne de confiance. Elle est digne d'être reçue. Et si dans cette parole, il est écrit, Dieu lui-même veille sur ça. Il est écrit, vous a... Oh, Marc 16. Amen. Verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est écrit, n'est-ce pas?
Amen.
Et si c'est écrit, c'est que Dieu lui-même veille sur ça.
Amen.
Et si Dieu veille sur ça, ce n'est rien d'autre que la vérité.
Amen.
René peut venir dire, oui, mais moi j'ai posé les mains, ça n'a pas marché. Oui, mais c'est que dit René n'annule pas la parole de Dieu.
Amen.
quand il dit vous imposerez, ils imposent, il dit en mon nom, il ne dit pas que les gens iront imposer les mains d'eux-mêmes. Il dit en son nom. Vous savez ce que ça veut dire en son nom? En son nom, ça veut dire c'est lui-même qui vous envoie. C'est ça. Quand vous allez quelque part en mon nom, c'est parce que je vous ai dit, allez-y. Si moi je vais quelque part en votre nom, c'est là où je vous demande, on demande souvent avant de voyager, est-ce que je peux dire en votre nom, je peux donner vos salutations aux frères que j'ai rencontrés, vous dites Amen. Alors j'y vais là-bas, je leur dis, vous avez les salutations au nom de l'Assemblée de Firmin. C'est que vous m'avez mandaté pour le faire. Si Christ me mandate pour le faire, cela doit s'accomplir. Ici, nous sommes dans la position de personnes qui demandent à Christ de nous envoyer le faire, de se souvenir de sa parole. Nous voulons lui demander la permission si nous pouvons y aller.
Amen.
Cette femme qui était en Allemagne, qui priait pour son bébé, qui venait de décéder, qui a demandé aux frères de venir prier pour que le bébé ressuscite, parce qu'elle avait appris que Dieu avait ressuscité un enfant auparavant, au travers du frère Branham, par le frère Branham. Mais frère Branham n'a pas commencé à courir directement en disant, je vais aller imposer les mains. Il s'est mis à genoux.
Oui.
Il a demandé au Seigneur s'il pouvait y aller.
Amen.
Et le Seigneur lui a dit, c'est ma main. C'est ma main. Aussi ce soir, tel que là où nous sommes, nous sommes dans une attitude où nous nous attendons à ce que lui nous dise quelque chose. Si lui nous dit quelque chose, nous le faisons. C'est là le but de nos prières. C'est en son nom que cela se fait, pas en notre nom. Je ne peux pas aller me poser devant un malade et dire au nom de... que je me pose devant un malade et que je dise, voilà, moi, frère François, je chasse le démon. Non. Il faut que je dise au nom de Jésus-Christ.
Amen.
Au nom de Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ m'a envoyé.
Amen.
Et bien sûr, quand il nous a appris à prier, il nous a appris à prier... Que ta volonté soit faite. Nous sommes de ceux qui croient sans que Dieu n'ait rien à nous prouver.
Amen.
Qu'est-ce que vous voulez que Dieu me prouve encore ce soir? Rien qu'en regardant sa création, je sais qu'il est Dieu.
Amen.
Je sais qu'il est tout-puissant. Je sais qu'il est grand. Nous ne sommes peut-être pas usés de corps comme Abraham, mais bon, mais nous tenons. Nous sommes dans des tourbillons. Marthe dit ceci au Seigneur, dans Jean 11. Marthe n'a pas besoin de voir le Seigneur descendre de la croix pour croire qu'il est le Fils de Dieu. Jean, chapitre 11, verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que Marthe dit, prouve-moi cela en ressuscitant mon frère? Elle ne dit rien. Jésus lui pose la question, crois-tu cela?
Amen.
Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Elle n'avait pas besoin de voir son frère ressuscité pour savoir qu'il était le Christ, le Fils de Dieu. Elle l'a cru. Vous et moi, nous avons cru. Nous n'avons pas besoin de voir les chaises voler. Nous n'avons pas besoin de nous voir nous-mêmes être en suspension dans l'air. Non, on n'a pas besoin de ça. Nous savons qu'il est le Fils de Dieu. Et nous savons qu'il a parlé dans cet âge. Et nous savons qu'il parle encore. Nous savons qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Que les miracles qu'il faisait autrefois, il les fait encore aujourd'hui. Le croyez-vous?
Amen.
Nous le croyons de tout notre cœur. Pas besoin de prouver cela. Les Juifs, ils étaient tout le temps là, à la recherche de preuves. Dans Matthieu 12, ils s'avancent, ils viennent auprès du Seigneur, ils lui disent. Verset 38. Excusez-moi. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Tout ça pour moi. Comme ça, on croit en toi. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Le Seigneur était gentil avec eux. Eux-mêmes là, ils étaient un miracle. Vous et moi ce soir, nous sommes des miracles. Qu'est-ce qui fait que nous soyons ici ce soir? C'est un miracle. Quand je me retrouve devant cet océan, je dis, oh, je n'ai pas besoin de miracle. Je sais qu'il y a un Dieu.
Amen.
Il est grand. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Si tu es fils de Dieu. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Vous savez, les gens de Ninive y ont cru sans voir un seul miracle. Oh, peut-être le miracle qu'ils ont vu, c'est de voir le poisson rejeter Jonas. C'était un grand miracle. Il a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre de ce poisson. Peut-être que les gens de Ninive ont vu ce poisson avaler Jonas. Et ils l'ont vu 3 jours et 3 nuits plus tard. Ils ont commencé à se demander, mais d'où vient-il celui-là? C'est un miracle qu'il soit là. La nouvelle s'était déjà répandue que cet homme avait été avalé par un poisson. Amen. Dieu est merveilleux. Vous savez, si on prie pour les malades, si les malades guérissent au nom de Jésus-Christ, Ce n'est pas parce que Dieu veut prouver qu'il peut le faire. Dieu le fait parce qu'il a promis de le faire.
Amen.
Il tient à ses promesses. Dieu n'a rien à nous prouver. On n'a pas à demander à Dieu, si tu es le Fils de Dieu, fais ça, alors je croirai. Non. Ou tu crois, ou tu ne crois pas. Allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, ben, il sera condamné. Vous n'avez pas à prouver. Regardez, regardez, je vais faire comme Élie, je vais faire descendre le feu du ciel. Non! Vous n'avez pas besoin de ça. L'Éternel est Dieu.
Alléluia.
L'Éternel est Dieu.
Amen.
Dieu a promis de le faire. C'est une promesse qui nous accompagne. Qu'en son nom, nous imposerons les mains aux malades. Les malades seront guéris. Ce message que nous avons reçu en cet âge, ce message est la vérité. Frère François, d'où tiens-tu que c'est la vérité? Vous savez, moi, je n'ai pas vu, je ne sais pas si vous avez vu, moi, je n'ai pas vu les écureuils crier. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu ce petit Finlandais, ressuscité d'entre les morts après avoir eu toutes les côtes brisées et tous les os fracturés. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu ça. Même pas en photo. Moi, je n'ai pas vu. Il y en a qui ont vu la photo du jeune homme déjà rétabli, mais moi, vous savez, je n'ai pas vu cet enfant-là avec les os brisés de tous les côtés. Et je n'ai pas vu ce petit poisson qui est revenu à la vie, alors qu'on lui a arraché tout ce qu'il avait comme entraille. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu. Peut-être certains d'entre vous ont vu. Il y en a qui ont même vu un camion entier plein de béquilles, de chaises roulantes qu'on a jetées là. Avec des malades qui ont ressuscité, qui ont été guéris à la chaîne. Moi, je n'ai pas vu ça. Mais malgré que je n'ai pas vu ça, je sais que c'est la vérité. Pourquoi est-ce que je sais que c'est la vérité? Parce que c'est biblique.
Amen.
La Bible, elle est la vérité. C'est pour ça que je crois de tout mon cœur. Cette Bible me raconte la création. Amen. Je n'étais pas là quand Dieu a créé. Il peut me poser la question, où étais-tu quand je faisais cela? Je n'ai pas assez d'intelligence pour y répondre. Mais je crois qu'il est le créateur des cieux et de la terre et de toutes choses qui existent. Ce message est biblique. La Bible est la vérité. Vous pouvez avoir été déçu en venant parce que vous vous attendiez à certaines choses que vous n'avez pas obtenues. Vous pouvez avoir été déçu pour n'avoir pas obtenu ce que vous avez demandé. Mais tant que c'est selon la parole, nous le croyons. Parce que cette parole, c'est Jésus-Christ, le Amen. Fils de Dieu, dans la forme écrite.
Amen.
Et c'est la vérité. Il dit, je leur ai enseigné ta parole. Et ta parole est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le Fils de Dieu. Parce que le Dieu créateur, le grand Jéhovah, il est invisible, il est esprit. Dieu est esprit. Et il habite des lieux inaccessibles. Mais il est venu proche de nous. Et nous croyons qu'il est Dieu. Ce petit homme-là, qui n'avait rien pour plaire, je n'ai pas besoin de demander s'il est fils de Dieu. Je sais qu'il l'est. Je me prosterne devant lui en disant, mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à Dieu. Les promesses qui sont dans cette Bible, elles sont certaines. Jésus a dit, si vous ne croyez pas à sa parole, croyez au moins aux œuvres. Croyance, là. Quand je regarde les œuvres sont admirables.
Amen.
Vous savez, quand je peux voir les œuvres des grands hommes, ces œuvres qui suscitent l'admiration des gens, qui vous font voyager d'un continent à l'autre, rien que pour visiter ça.
Oui, oui.
Comment est-ce que ce débarquement a eu lieu? Comment ils ont pu mettre un pont, un port artificiel dans cet endroit, à cet endroit-là? Ça suscite l'admiration des gens. Moi, j'ai dit, mais ils sont là à admirer ça pendant que les ports naturels que Dieu a créés, ils trouvent ça banal. C'est incroyable. Et vous les voyez, ils ont fait tous ces voyages-là. Ils sont nombreux, des Américains, des Anglais, des Canadiens. Vous les croisez là. Ils viennent, ils regardent. Et il y a eu une tempête qui a balayé une partie. Ils ont essayé de faire trois ports. Il y en a deux qui ont été balayés par tempête de trois jours avant le débarquement. Alors, quand ils ont dit que, voilà, il y a les deux ports là qui ont été balayés par la tempête, moi j'ai dit, moi je connais quelqu'un qui peut calmer la tempête. Ils étaient là, ils étaient à la merci de la tempête. Ils attendaient que la tempête s'arrête. Mais Jésus-Christ n'attend pas que la tempête s'arrête. Lui-même, il parle à la tempête. Mais bon, Jean 10, et nous allons terminer. Verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Parler un jour. Ça, c'est une fête qui a été instituée par Maccabée. Ce n'est pas une des sept fêtes. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, mais dis-le nous franchement. Mais je vous le dis. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Rien que les œuvres rendent témoignage de lui. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous ? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ? » Et c'est vrai, frère. L'homme, c'est un petit Dieu. Si vous voyez les œuvres humaines, Mais vous vous demandez comment est-ce qu'ils en sont arrivés à ça? L'homme est un petit Dieu. Vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites « tu blasphèmes », et cela parce que j'ai dit « je suis le Fils de Dieu ». Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez, reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. C'est vrai, moi, ça ne m'étonne pas. Quand je lis quelque part, je vois qu'il y a un écureuil là, et il y en a eu un. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Après cela, un deuxième, je veux qu'il soit là, et il est là. Ça ne m'étonne pas. Et il commence à faire sombre. Les écureuils rentrent dans leur cachette. Mais ceux que Dieu va mettre là n'ont pas de cachette, n'ont pas de maison. Ils viennent d'être criés et ils vont repartir. Alléluia. Il dit, Seigneur, c'est déjà un grand miracle. Il dit, non. Tu as dit 3. Et le troisième, il était là. Dieu est grand.
Amen.
Pas besoin d'attendre. Moi, je crois de tout mon cœur.
Amen.
C'est là où la sœur a-t-il dit, tout cela n'est que la vérité. Ce n'est rien d'autre que la vérité. Et je dis ce soir, je crois que nous pouvons le dire ce soir, nous tous ensemble. Tout cela n'est rien d'autre que la vérité. Amen. Si ce n'était pas la vérité, prieriez-vous pour les malades? Si ce n'était pas la vérité, prieriez-vous pour le frère? Non. Vous priez parce que vous savez que c'est la vérité. Parce que vous savez que le Dieu que vous priez, il entend les prières. Et quoi que nous lui demandions, il n'y a rien qui lui soit impossible. Il est Dieu. Prions le Seigneur. N'écoutez pas ce démon qui vient vous dire s'il est fils de Dieu, si le message que vous avez reçu est vraiment un venant de Dieu. N'écoutez pas ce démon. Dieu n'a pas besoin de prouver. Nous, on vient par la foi. Même si les choses semblent aller de manière contraire, nous continuons à aller par la foi. La foi est une démonstration des choses qu'on espère. Dieu vous bénisse. Prions. Père céleste, nul n'est besoin de pouvoir prouver, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Nous avons reconnu que tu es vivant. Nous avons reconnu que tu es le grand créateur. Tu es celui qui a porté toutes choses à l'existence. Nous avons reconnu que notre vie, nous te la devons. Nous avons reconnu que la santé que nous avons aujourd'hui, nous te la devons. Combien c'est fragile, ô Dieu. Mais si nous pouvons nous lever, nous avons reconnu que nous avons reçu tout cela par grâce. Nous, ô Dieu, nous n'avons rien reçu de par nos propres mérites. Nous n'avons rien fait qui soit, ô Dieu, grâce à nous. On peut manger sainement. On peut faire toutes ces choses sainement pour éviter telle ou telle chose. Mais les maladies n'épargnent pas ceux qui mangent sainement. Les maladies n'épargnent pas ceux qui vivent sainement. Mais tu es celui qui a le contrôle de tout. La santé, la vie, force, foi, tout cela, tu en as le contrôle. Nous le recevons de ta part. Te remercions. Déjà, ta création tout entière nous manifeste ta grandeur. Déjà, ô Dieu, ta création tout entière nous manifeste ta perfection. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Au travers d'elle, nous te voyons. Et nous pouvons voir la différence entre les œuvres humaines et les œuvres divines. Aussi, nous savons, nous t'avons remis également notre frère, Père, entre tes mains. Nous savons qu'il est entre de bonnes mains. Et nous ne craignons rien, nous regardons devant nous. Nous te faisons confiance et nous savons que tu l'as déjà sorti de cet endroit-là. Nous le croyons de tout notre cœur parce que nous savons que tu en es capable. Sois béni, sois loué. Nous te remettons notre chemin du retour entre les mains. Tu nous raccompagnes chacun. Tu bénisses tes enfants. Ô Dieu, nous avons besoin de tes bénédictions. Nous avons besoin de ta conduite. Et pour nos nombreux péchés, veuille tout simplement nous pardonner. Sois béni, sois loué. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse.